Une vie, une œuvre, Jérôme Bosch, 1450-1516, Pays-Bas. Hieronymus Van Aken est fils d'une famille de peintres. Il est né à Bois-le-Duc, qui se dit en flamand Bosch, et lui a valu son nom. À 30 ans, après un probable périple sous le sceau du compagnonnage, il travaille dans l'atelier paternel. En 1478, il épouse Aléide van de Merven et en 1486, entre dans la confrérie Notre-Dame, une association religieuse consacrée au culte de la Vierge, dont il devient le peintre attitré. Ses neveux, Johannes et Antonis, travaillent avec lui autant pour les amateurs de la région que la cour de Bruxelles. C'est une maladie dangereuse dont moururent bien des gens comme si c'était la peste, qui emporte cet inventeur de créatures et choses fantastiques où les forces de la beauté fascinent entre paradis et enfer. Luc Ponette signe avec Jean-Claude Loiseau pour la version originale et Lionel Quentin, Une vie, une œuvre, Jérôme Bosch.
Et là, cette scène est émouvante parce qu'au même temps qu'elle semble un peu sorcière sur ce bébé, le bébé a l'air paisible. Ça, il semble pas être effrayé du tout. Donc, peut-être elle a juste l'aspect effrayant, mais peut-être est-elle gentille, je sais pas. Et le rat, qui a sa monture, le rat, il a l'air aussi gentil, mais... Juste devant lui, il y a une créature très étonnante parce que c'est une proue qui, en même temps, est une cruche qui verse de l'eau et qui a des pattes. Mais le devant, c'est une figure toute épineuse et ailée.
Je crois qu'il faut plutôt donc rattacher Bosch à une culture populaire, bourgeoise, celle des cités du Nord, plutôt qu'à un savoir ésotérique et très mystérieux qui fascine, sans que d'ailleurs sa signification nous avance beaucoup, car une fois qu'on a dit qu'il y a des cornues alchimistes dans le panneau central du jardin des Lys, je ne vois pas en quoi on est très avancé sur l'interprétation générale de l'œuvre de Bosch.
Je vous avoue franchement que ce ne sont pas tant les diables que toutes les déformations qui m'impressionnent, mais la façon de peindre, c'est-à-dire qu'il a utilisé le matériau peinture à des fins qui n'avaient jamais existé avant lui. Il a fait du tableau une sorte d'œuvre vivante qui semble comme perpétuellement en mouvement et en action. Et il a fait ça avec une nervosité, avec un esprit de renouvellement continuel qui va d'ailleurs être suivi dans la suite par après, et on peut dire que peut-être qu'il y a chez Bruegel une manière de faire qui est analogue, et peut-être si on va un petit peu plus loin dans l'œuvre d'un Rubens, à certains côtés il y a aussi cette façon libre de peindre.
Une vie, une œuvre, Jérôme Bosch, par Luc Ponette. La nostalgie du paradisiaque, l'obsession du bizarre, la hantise du mal et du démoniaque, peu de peintres ont suscité autant de fascination chez les historiens de l'art comme chez les artistes. Des prolongements inattendus de son œuvre apparaissent dans l'art contemporain.
Ex-défenseur de peinture saucée, bistrée, iodée, brunie, embrunie, garancée, roussie, collodionnée, terre de siennée, ombrée, bitumée, jus de chiquet, momifiée, goudronnée, huilée, essencée, réglissée, crottisée, sardinée, fricadelée, seringuée, enfiantée, saurée, dégueulée, confiturée, rouillée, braisée, fricassée, savourons nos grosses inepties sur l'art flamand régénéré. L'art flamand depuis Bruegel, Bosch, Rubens et Jordaens est mort, bien mort. James s'en sort.
Cette peinture du Nord est une peinture qui, comme la langue belge, qui d'ailleurs n'existe pas, est une langue de la déraison.
Patrick Rogiers.
On peut dire que la langue française est une langue raisonnable, dont de grands auteurs, notamment en art dramatique, sont les parangons, et que la langue belge, notamment la langue de James Sansor, que moi je considère comme un des tout grands écrivains de langue belge, un des deux plus grands écrivains de langue belge du XXe siècle, avec Henri Michaux, tous deux peintres, inventent une langue de la déraison. Et les peintres belges, ou les peintres du Nord, sont essentiellement une peinture de l'envers, une peinture de la déraison, une peinture de la déconstruction du raisonnable, du comportement civil, des bonnes manières, et donc effectivement de l'inconscient, du subconscient, du refoulé, même de l'interdit, du saccage, de l'insubordination, dont la folie est la magnifique et quintessentielle cristallisation. Et je pense que Ansor est peut-être celui qui est le plus impressionné par Bosch de manière directe. Je donnerai un seul exemple. Le fameux portement de croix de Bosch est un tableau ansorien, si on peut dire, avant la lettre, parce que j'y vois la plénitude du plein, du all over, comme on dit en peinture. Et si on fait la référence entre le portement de croix, par exemple, et l'entrée du Christ à Bruxelles, qui est ce grand tableau que Ansor avait derrière son orgue dans son atelier et qui se trouve aujourd'hui dans une collection aux États-Unis, on voit cette peur panique du vide et cette hantise du plein par ces visages multiples, caricaturaux, grimaçants et qui sont bochiens. Et en ce sens, effectivement, on peut dire que Bosch est un précurseur absolu d'Ansor et que Ansor, dans l'entrée du Christ à Bruxelles, poursuit de manière splendide, je dirais, la tradition ouverte par Bosch. On ne peut pas comprendre ce tableau si on ne part pas de la référence à Bosch.
Jérôme Bosch s'appelait en fait Jérôme van Aken.
Roger van Scoot.
On pense que de ce fait, Aken est le nom, n'est-ce pas, de Aix-la-Chapelle, qui existe encore maintenant en allemand. Il est possible que cette famille était originaire de cette ville. Et des textes nous disent que Jérôme van Aken se faisait appeler lui-même Bosch, dit himself Schrift Hieronymus Bosch. Et il y a 9 chances sur 10, il est extrêmement probable qu'il se soit inspiré de la ville de Bois-le-Duc, Sertogenbosch, pour prendre ce nom.
Alors, Bois-le-Duc était une ville importante à cette époque.
Bois-le-Duc était une ville importante, surtout un grand centre commercial. Elle est restée dans les Pays-Bas du Sud, peut-on dire, jusque dans le courant du XVIIe siècle. Et ce n'est qu'à ce moment-là que elle a en quelque sorte fait sécession suite à certaines querelles religieuses, mais auparavant, elle était partie intégrante des Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire elle faisait partie d'un, non pas en concurrence, mais en équivalence avec d'autres villes brabançonnes comme Bruxelles, Anvers et Louvain.
Faussaires et tricheurs courent de par le monde et sont avec les fous comme l'ongle et le doigt. Faux amours, conseils faux, faux amis, pièces fausses, tous les dés sont pipés.
La nef des fous, Sébastien Brandt, 1494.
Alors c'est un espèce de cul-de-sac puisque la scène est bouchée par un mur qui occupe presque la totalité de l'espace. Il y a une très mince bande de ciel sombre en haut.
Jacques Dariula.
Et comme sur une scène de théâtre, puisque le point de vue est frontal, on a d'une part un escamoteur, un magicien qui tient une bille creuse entre le pouce et l'index et qui l'exhibe devant la foule des badauds. Au milieu, la table de l'escamoteur avec les gobelets de l'escamotage. ce qui est assez traditionnel.
Et une baguette
et puis,
aussi, oui.
Et une baguette, effectivement. Ouais. Alors, c'est la baguette avec laquelle on frappe et on découvre la bille dans le cône dans lequel on ne s'attendait pas à la trouver. Et puis, à gauche, alors je passe des détails, il y a près de l'escamoteur un petit chien ou singe, on ne sait pas trop, déguisé en bouffon, un cerceau posé contre la table. Et puis, à gauche, donc, il y a le groupe des badauds, qui forme un être polycéphale, un peu, un seul corps à plusieurs têtes, mais dont se détache pourtant un grand personnage qui porte un bonnet rouge et qui est plié en deux et qui, les yeux fixés sur la bille creuse qu'exhibe l'escamoteur, vomit une minuscule grenouille qui se trouve donc et qui est déjà tombée sur la table. Derrière lui, un personnage vêtu de blanc et de noir, qui peut faire penser au costume des Dominicains,
oui,
profite de sa fascination donc pour lui voler sa bourse qui pend à sa ceinture. C'est une scène donc de vol qui sera assez traditionnelle par la suite dans l'histoire de la peinture. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'un peintre représente non pas la vision perspective d'un regard souverain, mais au contraire le drame d'un regard qui est leurré et qui est piégé par... ce qu'il ne voit pas. Il voit ce qu'il ne faut pas voir, la bille de l'escamoteur. Il ne voit pas ce qu'il faut voir, le voleur qui lui prend son heure véritable. C'est ce qui avait fait pour moi tout l'intérêt de ce tableau, dans la mesure où il est le premier à définir cette iconographie d'une scène de genre qui sera souvent reprise par la suite. Et ça me paraissait tout à fait fondamental comme rupture dans l'histoire de la peinture et annonciateur de toute une modernité. Et puis, ceci m'avait conduit à m'intéresser à ce petit tableau qui, je le regrette, est un peu... méconnu en France, puisque il n'est pas exposé publiquement. La mairie de Saint-Germain-en-Laye le détient, elle le montre parfois, mais pas toujours.
Oui.
C'est un tableau que je trouve absolument admirable. Quand on l'a vu, sa facture est d'une extraordinaire finesse. Il y a très peu de Bosch en France, à vrai dire, le seul vraiment célèbre, la Nef des Fous du Louvre. On gagnerait beaucoup à le voir. Et donc je m'étais intéressé à ce tableau et à son iconographie et surtout à ce détail étrange de ce grand personnage qui est quand même vêtu d'une robe rouge, qui a une clé d'or pend à sa ceinture, il semble riche, il a cet étrange bonnet rouge, un peu bonnet phrygien, on a pu penser qu'il était un cardinal sur la tête, et qui vomit une grenouille, ce qui est quand même un détail assez insolite. Et j'avais trouvé une légende médiévale qui raconte donc que Néron, qui est une figure de l'Antéchrist au Moyen-Âge, persécuteur des chrétiens, Néron aurait souhaité connaître les douleurs de l'enfantement. Lui, homme, il aurait voulu connaître la souffrance de l'accouchement que connaissent les femmes. Et cela un peu par remords du meurtre de sa mère, disent toujours les chroniques, puisque...
Agrippine,
voilà.
Oui.
Alors il fait venir des médecins qui le trompent et qui lui font avaler une poudre magique ou bien un têtard ou des œufs de grenouille. Le batracien croit dans ses entrailles. Il finit par éprouver, alors il y a différentes anecdotes selon les légendes, des désirs de vomir et il vomit cette grenouille qui, selon une légende particulièrement frappante, celle d'Enichel au XIIIe siècle, est traitée comme un véritable fils de l'empereur. Elle est dans un carrosse, elle défile dans Rome. Les princes de Rome doivent faire la révérence devant l'impérial crapaud, l'impérial grenouille chez Enichel. Et jusqu'au moment où la grenouille entend croasser ses congénères et les rejoint dans le marais, ce qui déclenche la fureur de cette espèce d'empereur fou, démoniaque et possédé du diable dans le Moyen-Âge. Alors mon idée est ce qui... Je prétends pas du tout dire... Il s'agit ici de Néron, de la légende de Néron.
C'est une interprétation.
Oui, mais plutôt de resituer le tableau dans la formidable contexte de légende et surtout dans la culture populaire passionnante du début du XVIe siècle. C'est à l'époque de Bosch, et fin du XVe, c'est-à-dire l'après-réforme, et puis on va arriver au grand séisme de la réforme, donc il y a un monde s'effondre, et Bosch en témoigne, comme ses contemporains, et un univers intellectuel vacille, et les idées les plus étranges se mettent en relation les unes avec les autres, et l'art de Bosch en est, comme d'ailleurs l'art d'un Rabelais, ils sont très proches, je pense, en est un témoin magnifique.
Claude-Henri Roquet, vous êtes poète et dramaturge, et vous avez écrit un essai sur Jérôme Bosch et l'étoile des mages, qui est en fait un essai sur le triptyque de l'Épiphanie, qui est ce merveilleux triptyque de Jérôme Bosch qui se trouve au Prado.
Oui.
Ce n'est pas seulement une belle image.
Oui, c'est... Ah, vous mettez le doigt tout de suite au cœur des choses et ce n'est pas facile. Une belle image, je dirais une grande image, au sens où je crois Jung parlait de grands rêves, de grands songes. Ça serait donc une grande image au sens du songe.
Du même désert à la même nuit. Toujours mes yeux là se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours. Sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit.
Une saison en enfer, Arthur Rimbaud.
Et alors les mages? Bien sûr, on peut avoir une vision, j'allais dire, angélique des mages. Ce sont de bons mages, ils ont vu l'astre du Christ, ils sont venus, ils attendaient, ils espéraient la bonne nouvelle, ils sont les premiers, après les bergers, à se rendre au pied du Christ et à l'adorer. Oui, mais Bosch ne les représente pas seulement comme, j'allais dire, sous ces aspects-là, sous cet aspect-là, puisque il y a aussi autour d'eux, sur leurs vêtements, non seulement des scènes prophétiques, mais si j'ai bonne mémoire, si je regarde bien, quelques crapauds, quelques signes, disons d'ordre, disons maléfiques. C'est que là, nous aurions non seulement une adoration des mages, mais une conversion des mages. Les mages ne sont pas seulement ceux qui savaient de longtemps l'avènement du Christ, ce sont ceux qui sont passés de la magie, comme Balaam, à la prophétie ou à la reconnaissance de Dieu incarné.
Ce triptyque de l'Épiphanie, c'est aussi une peinture et ça a aussi des qualités plastiques.
Il ne faut évidemment pas réduire, comme on l'a fait trop souvent, trop longtemps, Bosch à des bizarreries, des diableries, de l'étrangeté, du subconscient, voire de la drogue, tout ça fut dit. Et il faut en voir le sens et le rapport qu'il avait au sens. Et il faut donc se souvenir, par exemple, du rapport qu'il pouvait avoir dans sa ville natale, dans la ville de sa vie, avec la Devotio Moderna, elle-même issue de Ruysbroeck et de... comment dire, tout ce qui a accompagné, suivi le mysticisme de Ruysbroeck. Par exemple, Gérard Roth, qui avait fondé les Frères de la Vie Commune. Alors, donc, on ne peut pas, et de plus en plus, je crois, qu'on a abandonné ces fantaisies sur les rapports de Freud, j'allais dire, de Bosch, avec les Adamites, avec... Il y a des rapports, mais ça ne veut pas dire qu'il était alchimiste, qu'il était membre d'une secte. Non, tout ça, non, c'était un catholique orthodoxe et nourri du mysticisme de cette époque, très lié à la vie commune, dans tous les sens que l'on voudra entendre. Bon, il faut se rappeler ça, mais il faut de toute façon se dire qu'il était peintre, c'est-à-dire... un artisan, un serviteur, comme dit Bachelard, un serviteur, il le dit, de Monet, des forces de la beauté, n'est-ce pas? Et je me rappelle, en vous disant ça, il m'est arrivé de parler avec André Leroy Gourand de la signification des fresques préhistoriques. Alors, il était un de ceux qui ont proposé des interprétations, et pas trop sommaires, n'est-ce pas, comme on pouvait les avoir un peu avant lui. Et il disait, mais quand on ne sait pas ce que ça signifie, il reste une chose, on avait ce dialogue, et c'est lui qui a dit, je crois, enfin on l'a dit ensemble, il reste que c'est beau. Et on pourrait dire, eh bien, il reste, si ce mot convient, il reste la beauté. Mais quelle beauté? Il faudrait parler de la beauté, je dirais, du théâtre de Bosch. Enfin, je veux dire, sa composition, la peinture, à bien des égards, n'est pas seulement liée au livre, elle l'est encore beaucoup, y compris chez Bosch, mais déjà elle commence à se rapprocher, et déjà elle se rapprocher éventuellement au Giotto, de l'univers du théâtre. Et Bosch est un, je dirais, en évitant l'anachronisme, un metteur en scène. Je dirais même un cinéaste.
Il y a cette beauté du regard, de la composition, des lointains, des parties qui cependant se correspondent, des horizons. Et souvent, la grande beauté de Bosch est dans ces horizons. Dans ces horizons parfois proches, si j'ose dire, dans les arbres, les vergers. Mais dans la qualité même de la beauté picturale, c'est-à-dire de cette matière. Et alors, est-ce que la beauté, non seulement elle nous émerveille, elle nous charme, elle nous console éventuellement, elle nous aide sur notre chemin, ce chemin où les ossements gisent. Seulement, comme dans la tragédie, le pire, le plus horrible est cependant un chant, et les larmes qui nous viennent aux yeux sont aussi des larmes, comment dire, liées à la beauté des choses, non pas peut-être du monde, mais à la beauté d'un autre monde qui transparaît. Ce qui fait que Bosch, quand il peint le mal, le peint avec l'amour de la beauté. J'ai envie de dire de ce mot grec qui ne signifie pas tout à fait ça, avec philokalie, amour de la beauté. Philokalie, comme on sait, c'est le recueil des textes de vie intérieure dans le monde orthodoxe. Eh bien, un homme comme Bosch ne méditait pas seulement la théologie conceptuelle, je dirais, n'est-ce pas, le catéchisme, on pourrait dire. Il n'était pas seulement étreint, comme chacun de nous, par le mal et par la mort, cherchant une issue en chrétien à ce désastre de la vie, n'est-ce pas, cherchant un astre à la vraie vie. Mais il était peintre, il était dans le bonheur et dans la joie de regarder les oiseaux si beaux et de les peindre, et son pinceau était, comment dire, lié à, je dirais, à toutes les pierres précieuses qui brillent dans l'Apocalypse et qui forment la Jérusalem céleste. Le peintre était déjà témoin, par l'acte même, l'acte humble de la peinture, de la Jérusalem attendue, espérée.
Ça, Patrick Rogier, c'est le portement de croix, le fameux tableau de Bosch qui se trouve à Gand.
Oui, que j'ai vu d'ailleurs il y a peu de temps, au musée d'art ancien, qui est tout à fait surprenant, en face du SMAC d'ailleurs, sous le fronton duquel on trouve l'homme qui mesurait les nuages de Yann Fabre. Effectivement, ce tableau, ce qui est fascinant, c'est le nombre de figures de profil qui sont une manière, au fond, de mettre en exergue la caricature, les typologies anormales. Mais enfin, à cette époque-là, la face, on dirait peut-être aujourd'hui le délit de sale gueule, se marquait. Il y avait une typologie forte. Évidemment, Bosch s'en amusait beaucoup avec causticité, et en sort, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont essentielles, je crois, comme d'ailleurs chez tous les grands caricaturistes anglais, comme Rawlinson, comme Gilray, comme Hogarth, qui eux-mêmes sont des pourfendeurs du code britannique, ce sont les dents et les yeux. Les yeux qui sortent de la tête au sens propre du terme, qui sont d'une extrême agressivité, et les dents qui rappellent la part animale de l'individu. Et donc effectivement, sans aller jusqu'à la phrénologie, il y a cet aspect cruel, dangereux et agressif de la dentition qui s'ouvre et qui saille dans le visage, et qui rappelle la sauvagerie, la rébellion et la bestialité de l'être humain. Bosch rappelle que l'être humain est d'abord un animal, et au fond, bien sûr, 4 siècles après ou 5 siècles après, avec En sort, on en rit. Mais c'est cette même cosmogonie d'individus disparates qui crée une forme de société et d'univers mental qui est en même temps, on pourrait dire, peut-être le paradis ou l'enfer, les deux mêlés. Avec en même temps les grandes mythologies du Christ au milieu, de la croix, de Marie-Madeleine, des visages virginaux, des femmes, et puis en même temps des guerriers, des fous, des savants, tout cumulé. Et effectivement, il n'y a pas d'échelle de valeur chez Jérôme Bosch, pas plus qu'il n'y en a chez En sort. Tout se vaut sur le même prix plastique de l'étagement dans la toile, et pareil quant au niveau du comportement social. le riche, le noble ou le puissant ne sont pas plus améliorés au plan esthétique que le pauvre ou le misérable du dernier rang qui croupit dans la rue. Et effectivement, à ce moment-là, on peut se rendre compte que derrière la grande mythologie poétique que dépeignent à la fois Ansor et Bosch, ben, il y a une critique acide et très politique du monde et de la société.
Poisson de contact. Léon parsemé. Camouflage dispersé. T'as la manoir si sûre, mais même fière de tristesse. Faut-il voir dans cette hurle le plus grand coiffé de son siècle? Et pourquoi pas? Le long nez cache cette face édentée.
Alors, Charles Juliet dit de votre travail que c'est une réalité métamorphosée où les barrières s'abolissent entre le connu et l'inconnu, le règne animal et végétal. Et on trouve ça aussi chez Bosch, bien sûr.
Oui, mais ça, c'est sûr. Bon, Bosch avait son imaginaire qui correspondait aussi à son époque, à comment l'importance de l'Église, lui-même était très, très, très croyant. Il venait de cette tradition de famille de peintres, père peintre, grand-père peintre. Il s'est occupé des vitraux de l'Église de sa petite ville au Nederland. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est peut-être ça vient de l'héritage du Morongueta. Le Morongueta, c'est le Décaméron des Indiens brésiliens. Et dans les Décamérons des Indiens brésiliens, l'Indien emprunte le temps de s'expliquer le pourquoi des choses, le corps soit d'un animal ou d'une chose. Donc les choses qui peuvent se transformer, pour moi, me semblent possibles, pas impossibles. Surtout quand elles rassurent des êtres comme les Indiens qui n'ont pas la science des choses. Et moi, je pense qu'à l'époque de Bosch, les gens ne savaient pas. Ils n'avaient pas non plus la science comme nous avons aujourd'hui des choses. Ça veut dire la raison raisonnée, si, disons, technologique, si froide, n'est-ce pas? Je crois que ce qu'ils apprenaient en science était peut-être un tout petit peu de science, d'exactitude, et beaucoup de fantasmes, beaucoup d'imagination.
Et de magie.
Et beaucoup de magie. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça ne me semble absolument pas étrange. Je peux me sentir dans une sorte de familiarité que je suis devant Bosch.
Pourquoi mourir, Antoine? Tu ne la connais seulement pas, cette vie que tu abandonnes. Par les nuits d'été, les flots déploient des feux dans leur écume, et le ciel est pailleté d'or comme la robe d'une princesse. T'es-tu balancé sur les grandes lianes? Es-tu descendu dans les mines d'émeraude? A-t-on frotté ton corps en sueur avec des essences fraîches? As-tu seulement dormi sur une peau de cygne? Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine.
Donc, il s'agit d'un tableau absolument inaugural, et il faut se demander ce que signifie cette tentation. Il faut se le demander d'autant plus,
Jacques Daruilla,
que le titre est évidemment très paradoxal. Car quand on voit ces monstres hideux et repoussants, on se demande ce qu'il peut bien y avoir de tentateur. Lorsque Quentin Metsy reprendra le thème de la tentation de Saint-Antoine fera des diables trois courtisanes extrêmement séduisantes, dont la nature diabolique ne se trahit que par la patte griffue qui sort de la robe tout en bas, on comprend effectivement la tentation d'Antoine. Mais ici, il ne s'agit pas de tentation, mais de répulsion. Par conséquent, cette scène est énigmatique. En quoi Antoine est-il ici tenté? Qu'est-ce qui est exactement en jeu? Il me semble que la tentation de Lisbonne est tout à fait en relation avec ce que j'ai dit de l'écroulement du savoir médiéval, c'est-à-dire à la fois d'une pensée qui reste prisonnière de la prolifération herméneutique par analogie, par ressemblance, c'est-à-dire le mode propre de la pensée médiévale, et qui en même temps est moderne par le sentiment d'un chaos envahissant. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette tentation, à mes yeux, c'est le motif central. Antoine est agenouillé, et devant lui se trouve un petit édicule en ruine, qui est en fait le seul motif en perspective de toute la composition. Et on sait que la perspective a été ce qui a permis de stabiliser la mise en scène, la scénographie du tableau au XVe siècle, le traité d'Alberti della Pittura est de 1436. Et Alberti recommandait bien de mettre une perspective à point central, dans la mesure où le point de vue placé au centre du tableau équilibre et symétrise toute la composition. Ici, nous avons un petit édifice perspective, mais extraordinairement bancal. D'abord, il est en ruine, ensuite il est monté sur des tréteaux, il est construit en pierre, monté sur des tréteaux de bois que surmonte une eau vaseuse dans laquelle pataugent des monstres. Donc on sent que cette perspective est sur le point de vaciller. Et Bosch place au point central de la perspective un autel. Sur cet autel, il y a un crucifix avec le Christ. Et le Christ montre à Antoine, de l'index, le crucifix, lui disant « c'est ici qu'il faut regarder ». L'oraison, la dévotion doit être fixée sur le mystère de la passion à l'imitation de Jésus-Christ, selon un texte qui jouera un rôle fondamental dans la dévotion moderne au XVe siècle. Or, Antoine détourne la tête. Antoine a... Le regard s'est biaisé, s'est faussé. Antoine quitte le point central, sa perspective est en train de vaciller. Il est attiré par ce grille, ce personnage si mystérieux, qui est une tête directement greffée sur deux pattes, qui danse, tête surmontée d'un turban, et qui danse à sa droite. Et Antoine est irrésistiblement diverti par le monstre. Le grille est un personnage de carnaval. Il suffit de lever les bras au-dessus de la tête, de mettre un turban qui cache la tête et les bras, de dessiner un visage sur le ventre et de courir dans cette tenue, ce qui fait rire, bien sûr. Donc c'est un grotesque. Et la tentation, finalement, consiste en quoi? C'est le démon de la curiosité. Je ne peux pas m'empêcher de regarder à côté de Dieu, vers le monstre, vers le damné, vers le disgracié, celui que Dieu a abandonné. Et c'est dans cette marge que va proliférer le monde inouï de Bosch. C'est donc bien l'histoire d'un renversement, d'une révolution et d'un chaos que raconte l'histoire de la tentation.
Sotte dame et sotte damoiselle, sotte vieille, sotte jeune, nouvelle, toute sotte ayant le masculin, sotte hardie, couarde, laide, belle, sotte frisque, sotte douce, rebelle, sotte qui veulent avoir leur picotin, sotte trottante sur pavé, sur chemin, sotte rouge, maigre, grasse et pâle, le mardi gras jouera le prince au hall.
Sots, ivrognes, aimant les bons lopins, sots qui crachent ton matin, Jacopin, sots qui aiment jeu, taverne et bas, tous sots jaloux, sots gardant les patins, sots qui chassent nuit et jour au conin, sots qui aiment à fréquenter le bas, sots qui fêtent aux dames les choux gras, advenez-y, sots lavés et sots sales, le mardi gras jouera le prince au hall.
Juste à côté, à droite, avant d'arriver au troisième panneau de droite, il n'y a pas derrière une figure que... Moi, je pense qu'elle est masculine, parce que il y a quelque chose qui me dit que c'est masculin. Mais c'est très bizarre parce qu'il a comme une espèce de fruit rond sur la tête. Mais ce qui me fascine, là, c'est pas ça. C'est la scénette juste derrière. Elle est derrière... la chose la plus importante du panneau central, qui est la chapelle. La chapelle où il y a le Christ sur la croix et le Christ vivant, debout, homme. Le Christ homme peut être ressuscité là parce qu'il a les deux doigts ensemble, un signe de bénédiction. Et à l'extérieur... en se tenant sur une espèce de petite bancade comme ça, près de deux petites marches, il y a Saint Antoine que pour la première fois de tout ce monde, de toutes ces choses innombrables, nous regarde droit dans les yeux, il nous regarde. Mais ce qui me fascine donc, dans cette chapelle, sur la chapelle, qui devient à ce moment-là comme une ruine un peu cassée, un peu comme ça. Il y a tout un paysage bucolique avec même un petit cerf qui mange des petites herbes au sol. Et lui, il a son petit oiseau, comme on voit dans les champs parfois. On voit les vaches qui sont comme ça, qui se baladent avec un petit oiseau dessus. C'est tout à fait bucolique et calme. Peut-être justement parce que juste en dessous, il y a le Christ qui donne la tranquillité, la paix qui émane cette paix. Et même les créatures qui sont sur cette espèce de ruine où il y a la chapelle, là, elles sont moins féroces. Elles sortent des coquilles, elles sont moins dangereuses ou effrayantes.
Est-ce que vous savez que l'autel qui est au centre du panneau central, qui représente le Christ, ça a été un repeint, parce que dans les radiographies, on a découvert qu'il y avait, à la place de cet autel avec le Christ qui indique la croix, il y avait une tente avec un homme attablé avec une femme. Et en fait, ça représente la Luxure. C'était une scène de Luxure qui a été repeinte, peut-être par Bosch.
Et ça, je ne savais pas, mais il me semble que la solution trouvée est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus mystérieuse parce qu'elle a tellement de petits signes symboliques, des choses énigmatiques. En plus, avec ce fruit extraordinaire qui est en bas du panneau central, donc allant vers la gauche, je ne sais pas, une stylisation d'une tomate. Non, mais la tomate n'était peut-être pas encore arrivée en Europe à ce moment-là. Je ne sais pas si la tomate était déjà là, je ne crois pas. Sacré, ou alors un fruit, sacré. Je ne sais pas, et qui est tente en même temps. Donc,
approchez de la fumée sacré. À poil plat, annonce sacré. Une dignité conjugale.
Sacré.
Dos rond.
Sacré.
Griffes acérées sacré. En dedans.
Sacré.
Un tablier de gris.
Sacré. Sacré.
D'une part, fait beau d'une lourde queue pendante d'un côté et d'une langue discole de l'autre.
Il y a un autre exemple, Patrick Rogier, ce qui est Fernand Knopf, peintre qui a grandi à Bruges.
Oui.
C'est une espèce de dandy un peu anglophile.
Oui, très impressionné par les pré-raphaélites. Grand ami d'ailleurs de Rossetti.
Et de Burne-Jones.
Absolument, oui, tout à fait.
Et lui aussi a fait des tableaux qui sont des métamorphoses, des personnages. Qui...
Oui. Son tableau le plus connu, qui s'appelle « Des caresses », qui représente une femme sphinx, c'est effectivement, pour moi aussi, un tableau boschien, au sens où une des récurrences du monde de Bosch dans la peinture contemporaine ou dans la peinture moderne, ou même dans la peinture de la fin du XIXe siècle, au-delà du plein, qui est une des caractéristiques que j'ai dites, c'est l'hybride. Et effectivement, l'hybride, c'est-à-dire l'association de deux corps qui ne sont pas faits pour se rencontrer, pour s'allier, pour se marier, pour se combiner, donne par exemple, effectivement, cet être hybride de la femme sphinx, qui est le tableau le plus connu de Knopf, qui s'appelle « Des caresses ». Mais en même temps, je crois que ce travail sur l'hybride, on le retrouve chez Bellemare, par exemple, on le retrouve chez un peintre ou dessinateur français qui est Granville, dans un autre monde, justement, un monde autre, où l'hybride est extrêmement important. On le retrouve dans la tradition germanophile ou germaniste chez Böcklin, par exemple, où on a aussi, à travers les sirènes, à travers des personnages mutants, à travers des personnages de la mythologie, à travers des titans, des êtres hybrides. Et puis, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, qu'on oublie souvent de dire lorsqu'on raisonne trop l'art, c'est que je pense que le surréalisme, et très particulièrement le surréalisme belge, vient du symbolisme. Et si, effectivement, on part de l'hybride chez Knopf, on arrive à l'hybride chez Magritte. Et ça donne effectivement, de cette peinture très célèbre, le viol, où le sexe d'une femme a pris le corps de la femme et où la tête est supprimée. Sacré. On peut dire que d'une certaine manière, sacré. Le viol de Magritte pourrait sacré. Être un extrait d'un tableau de Bosch.
Sacré, 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 sacré.
Un certain Antonio sacré. De Beatis, secrétaire du cardinal d'Aragon, passant à Bruxelles en 1517, a vu au palais de Nassau une œuvre qui, très probablement, est le Jardin des Délices, compte tenu de la description assez précise qu'il en fait. Des hommes et des femmes blancs ou noirs, des oiseaux, des animaux variés, peints au naturel, mais avec beaucoup de fantaisie.
La peau est sacrée. Le nez est sacré. la langue et la queue et la main et l'anus. Sacré. Tout est sacré. Tout le monde est sacré. Partout est sacré.
Je crois que, en se basant sur les textes anciens, on parle en espagnol d'un tableau de la variété du monde, ou encore un tableau del madroño, c'est-à-dire de l'arbouse, l'arbouse qui est l'arbre à fraises, qui est l'arbousier, des fruits rouges qui ressemblent un petit peu à la fraise, mais qui n'ont pas la même saveur. Et un bibliothécaire de l'Escorial, qui était un grand lettré, parlant en 1605 déjà du tableau, donc quelques années seulement après son arrivée au monastère de l'Escorial, dit que ce tableau traite de la gloire vaine et brève au goût de la fraise, au goût de l'arbouse. Et c'est pour dire ceci, son parfum est déjà passé dès qu'on l'a goûté. Mais il ajoute que c'est sans doute le tableau le plus fantaisiste et le plus inventif que l'on peut avoir.
Proté omniforme, se faisant cigale, et musicalement exerçant sa vouée ce jour caniculaire, poroué d'une rosée matutine soigneusement emballée au mois de mai, faire une tierce concoction devant le cours entier d'une écharpe zodiacale.
François Rabelais.
Le plus souvent, on relie l'art de Jérôme Bosch, comme celui d'ailleurs de Pierre Bruegel l'Ancien, à l'univers du Moyen-Âge.
Jacques Daruilla.
Je crois qu'il y a là une profonde erreur et qu'il est important de comprendre ce qui pourtant nous semble un paradoxe très fort à nous qui avons un découpage historique peut-être grossier, approximatif, sinon faux, que Bosch, par exemple, est le contemporain de Léonard et du plafond de la Sixtine, du moins, enfin, du Michel-Ange du plafond de la Sixtine, c'est-à-dire de l'apogée de la Renaissance italienne à l'époque où Léonard disait que la peinture était cosa mentale. Il voulait souligner l'aspect intellectuel de cet art majeur, de cet art noble, libéral qu'est la peinture. Eh bien, on a affaire à... on trouve chez Bosch un art, au contraire, extraordinairement embrouillé, fantasmatique, qui joue sur des fascinations et qui est bien loin de cette pureté intellectuelle que cherchait... La construction géométrique de la peinture italienne. Alors je crois que c'est très important de comprendre ce qu'il y a d'archaïque l'art de Bosch, d'une part, et ce qu'il a de prodigieusement moderne. Ce qui est archaïque, eh bien, c'est cette méthode de composition par prolifération. Je crois qu'il y a là une conception de la vérité qui nous est devenue étrangère et qui était encore celle du XVIe siècle, et surtout dans les pays du Nord. En fait, qui le sera jusqu'à la réforme cartésienne, la méthode cartésienne. Une idée est vraie dans la pensée médiévale, dans la mesure où, par association, elle produit, par association et ressemblance, un peu à la façon d'une interprétation psychanalytique, où elle produit un grand nombre d'idées semblables. De même, Bosch compose son tableau par prolifération de formes.
Dans
le Jardin des Lys, ce sont des petites scènes microcosmiques qui sont associées les unes aux autres. On a l'impression d'une libre association d'idées, pour employer une expression moderne. Et la pensée est d'autant plus riche que sa prolifération herméneutique est plus importante. Pour nous, au contraire, moderne depuis Descartes, ce qui fait la qualité d'une idée,
c'est la synthèse.
C'est son évidence. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas du tout la prolifération d'une idée vers d'autres idées, c'est sa qualité propre, comme on parle de l'eau d'une perle, si vous voulez. Bien. En ce sens, Bosch, comme Bruegel, appartient au monde analogique du Moyen-Âge. Mais en même temps, il est moderne. et comme Rabelais. Parce que ce monde médiéval, il ne le présente pas du tout comme un cosmos ordonné. Ce qui est le cas de la pensée médiévale, qu'on pense même encore à, peut-être au plus grand philosophe du Moyen-Âge, qui à mon sens est Dante, où les cercles de l'enfer comme la spirale ascendante du purgatoire, comme les cercles du paradis, sont parfaitement ordonnés selon une théologie scalaire, enfin selon une gradation très, très précise. Ce monde médiéval d'analogie et de ressemblance, Bosch en fait un chaos. Et c'est en sens qu'il est moderne. C'est-à-dire qu'il témoigne, et Rabelais, même chose, hein, c'est un monde qui s'écroule et qui forme un formidable chaos qui montre aussi par ironie la fragilité d'un savoir fondé sur la ressemblance et sur l'analogie.
Quand on regarde la partie centrale du tableau, on constate que dans les zones supérieures se trouve un certain nombre de constructions vraiment curieuses, fantastiques, avec des tons de rose et de bleu très profonds, qui empruntent des éléments de la civilisation, de la végétation ou du monde animal, et qui sont réalisés avec un soin extrême. Quand on observe cela par la radiographie, quand on l'observe par l'étude du dessin sous-jacent, il n'y a aucun changement qui se trouve organisé. Tout est fait de cette manière très inattendue, directement. Par contre, quand on regarde cet ensemble de dizaines, de centaines de personnes et d'animaux, à tout instant, des changements sont introduits. Dès lors, il y a cette différence étrange entre ce monde extraordinaire et tout à fait irréel, réalisé directement avec une précision extrême dans le tableau, et tout le reste, à peu près les deux tiers de l'œuvre, qui ne sont qu'une recherche constante de l'artiste dans des positions, dans des mises au point, dans des détails, et ainsi de suite.
Définition de ce qui suit. De carapaces ornées d'une multitude de signes, lettres, figures géométriques, figures cabalistiques, de bouffonneries exotiques, d'arrasements de fin de route.
Ce que je serais tenté de comprendre dans ce tableau, c'est précisément le progressif écroulement d'un univers
banalités profanes et présences
très rigoureusement hiérarchisé et ordonné en un chaos infernal qui est celui de l'effondrement du savoir médiéval et puis de, pas du savoir seulement, mais de l'ordre, de la société médiévale dans l'enfer de la pré-réforme, de l'angoisse religieuse de la pré-réforme et bientôt des guerres de religion. Donc, en ce sens, Bosch est extrêmement moderne. Et plus qu'un autre, plus même que les peintres italiens qui demeurent tout à fait attachés à ce qu'Alberti nommait la construction légitime, à la mise en scène très, très rigoureuse de la perspective, Bosch pulvérise tous ses repères et nous précipite dans un monde qui perd ses repères et qui sombre progressivement dans le chaos.
Claude-Henri Roquet, il y a un autre tableau de Bosch qui se trouve également au Prado, qui s'appelle le fameux triptyque du chariot de foin. Est-ce qu'on peut dire en deux mots ce que c'est ?
C'est la traversée du monde. C'est un homme qui s'arrache à la misère du monde et au mal, peut-être à celui qui l'a commis aussi. Quand le retable est fermé, au retable philosophique, je dirais, n'est-ce pas ? On voit cet homme au regard inoubliable traverser le monde sur un chemin de la vie. Cet homme que nous connaissons aussi par la représentation de ce qu'on a appelé longtemps l'enfant prodigue.
Ou le vagabond.
Ou le vagabond qui est à Rotterdam. C'est Bosch lui-même, on peut le penser. C'est chacun de nous. C'est l'homme. C'est l'homme.
Thank you.
Ils veulent s'amuser comme des débauchés et pondre déjà l'œuf pendant le carnaval, même si le coucou ne chante ses amours qu'au joli mois de mai.
Dans certaines maisons, on offre des beignets, mais il est plus prudent de ne pas y entrer, pour de bonnes raisons que je préfère taire.
L'idée que carnaval est fait pour s'amuser est invention du diable ou bien de la folie.
Quand on devrait songer au salut de son âme, les fous entrent en scène et veulent vous bénir par leur festivité.
Sébastien Brandt, La nef des fous.
Et quand on ouvre le triptyque, ah, les choses sont à la fois tumultueuses et très claires. Le monde est ce chariot de foin.
Ça, c'est le panneau central.
Oui, qui est couleur d'or et qui est un faux or, qui est une pure vanité, n'est-ce pas ?
Et là, on voit le monde, puisqu'on voit les moines, on voit les religieux, on voit les...
Oui, oui, tout le monde entasse, voilà le gros moine qui, d'ailleurs, ne va pas lui-même, si j'ose dire, à la curée. Mais il y a des nonnes pour cela, qui entassent des sacs vains, car tout ira à la mort et à l'enfer, n'est-ce
pas ? Oui, parce que ce chariot est tiré par des monstres qui le...
Un peu carnavalesque, carnavaleux, enfin, mais bon, c'est encore autre chose, encore un rapport avec ce carnaval. Ces démons qui sont des masques, qui sont des caricatures, qui sont des êtres de carnaval, n'est-ce pas ? Mais tout ça, très sérieusement, terriblement, par une bouche infernale, par une espèce de roche qui est aussi une espèce de monstre lui-même, elle-même, tout ça s'en va vers l'enfer où se construit une tour étrange.
Qui est le panneau de droite, alors.
C'est le panneau de droite. C'est la suite de la chute.
Voilà.
Voilà. C'est la chute, n'est-ce pas ? Non pas les péchés. On dit souvent le rapport de Bosch avec les péchés. Et bien sûr, il a représenté les péchés capitaux. Mais il a représenté surtout le rapport au péché originel, au péché central, c'est-à-dire à la chute. Et comme j'ai beaucoup connu dans ma jeunesse Lanza del Vasto et tout ce qu'il pouvait avoir médité sur le péché originel et sur la chute, et sur le péché originel comme acte de tirer à soi. N'est-ce pas, le premier péché, c'est de manger le fruit, et non pas de le contempler ou de l'offrir, n'est-ce pas, mais de le manger et d'en mourir, finalement, n'est-ce pas. Donc, au fond, ce chariot de foin, c'est le péché originel, c'est le fruit originel, faux fruit, n'est-ce pas, bien sûr. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le Jardin des Délices, qui est une autre variation, ou un autre degré, disons, de considération sur ce désir d'accaparer, de prendre, de ne pas rendre, de ne pas donner, de ne pas offrir. Le Christ s'offre, mais qui le voit, n'est-ce pas ?
Il est là-haut, dans le ciel, voilà. Dans les nuages.
Il offre ses mains, il présente ses mains percées. Il est le Dieu qui s'est offert pour le salut du monde, mais le monde continue son train. Et alors cette tour, on peut s'interroger, pourquoi une tour en enfer ? Eh bien oui, c'est tout simple finalement, l'enfer croit qu'il monte. C'est le propre de Babel, c'est le propre de Babylone, n'est-ce pas, que d'édifier une tour qui est en fait une chose à l'envers. On croit monter et on se précipite la tête en bas. Et puis si j'ai bonne mémoire, dans l'Apocalypse, il est question de Babylone et de la tour de Babylone, n'est-ce pas, qui à la fin des temps sera détruite. Voilà.
Le barbu à poil.
Oui.
Après avoir tordu le cou à un barbu.
Après avoir tordu le cou à un barbu.
Ôtez-lui tous les poils.
Oui, tous les poils.
Grattez-le. Pincez-le. Videz-le.
Oui.
Talquez-le, mais ne le rincez pas. Essuyez-le délicatement en tamponnant.
Ah, en tamponnant.
Et mettez le cuir dans un courbouillon.
Dans un courbouillon.
Servez-le baignant dans une sauce blanche.
Roland Topor.
Roland, en tant que dessinateur, graveur et peintre, se relie à cette famille de l'inconscient qui vient aussi, elle, de Bosch, à savoir celle de Cubine.
Patrick Rogiers.
Donc, au fond, un peintre de la Mitteleuropa, qui peignait lui aussi, comme Witkiewicz, des hypertrophies mentales, imaginaires, des monstres, des situations atroces, comme par exemple, Roland Topor a écrit une pièce qui s'appelle, un texte qui s'appelle Le bébé de Monsieur Laurent. Et donc Monsieur Laurent a cloué un bébé sur sa porte. Et c'est un dessin qu'on retrouve chez Cubine, par exemple. Mais on retrouve aussi cela chez Odilon Redon. On trouve d'ailleurs chez Cubine, comme chez Redon, deux récurrences essentielles et qui sont totalement liée à l'univers de Bosch et donc aux symptômes de l'immaturité qui sont d'une part l'œil et d'autre part l'œuf. Et donc des formes ovoïdes extrêmement importantes, avec aussi la castration que ça suppose, et donc les symboles d'immaturité que les deux indiquent, se retrouvent dans le travail de Roland Topor. Et donc effectivement, il y a là, comme l'avait très bien montré la très belle exposition de Jean-Pierre Changeux et de Jean Clerc au Grand Palais il y a quelques années, qui s'appelait « L'âme au corps », on voit une histoire de l'art qui s'écrit en dehors des marges officielles. Et dans ces marges-là, eh bien, on trouve un très grand nombre de peintres qui sont rejetés. Ça peut être même Courbet qui a remarquablement peint la folie. Et tous ces gens-là, évidemment, ils ont un père commun qui est Jérôme Bosch.
Roger Van Scoot, la plupart des œuvres de Jérôme Bosch sont signées.
Beaucoup d'œuvres, effectivement, portent le nom de Bosch. Le mot « signature » n'a pas tout à fait la même signification que celle que des artistes plus proches de nous ont voulu lui donner. C'est une inscription du nom. Cette inscription est d'ailleurs faite en lettres très élégantes, en lettres presque diplomatiques, et se retrouve pratiquement les mêmes dans nombre de tableaux. Le problème est que, je dirais que ça ne veut à peu près rien dire. Dans ce sens que, on le sait, d'autres artistes, des suiveurs, ont continué à travailler à la manière de Bosch, et nous avons un témoignage de Felipe de Guevara, personnage important en relation avec la cour d'Espagne vers la moitié du XVIe siècle, toute la famille Guevara est d'ailleurs extrêmement importante, qui nous signale plusieurs choses de toute première importance. L'une d'entre elles, c'est qu'à son époque, on continuait à faire des tableaux genre Bosch, alors que Bosch était mort depuis 50 ans. Et non seulement on s'est forcé que ces tableaux ressemblent à des tableaux de Jérôme Bosch, mais pour les vieillir, on les mettait dans des cheminées, on allumait le feu, et de ce fait, on leur donnait un aspect plus ancien que ce qu'elles n'avaient normalement.
Le nombre des fous est infini, écrit l'Ecclésiaste. Mais le fou qui suit son chemin croit, dans sa folie, que tous les autres sont fous comme lui.
Erasme, l'éloge de la folie.
L'autre être volant très étonnant, c'est au premier tableau de gauche, donc, à ce moment-là, c'est Saint-Antoine lui-même a mis couché sur un crapaud qui est comme ces crapauds qui vont être disséqués. Et puis, il est tout entouré, le crapaud, de créatures absolument monstrueuses, horribles. Et Saint-Antoine est à mi-couché, il tient les deux mains comme qu'en prière, il a le visage même un peu rougeâtre, comme que... Et son visage va comme ça vers le ciel absolu. Et c'est comme s'il prie pour s'en sortir de ce cauchemar. Et ça me fascine aussi.
Avec Roger Van Scoot, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, professeur à l'Institut supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie de Bruxelles, auteur de Jérôme Bosch aux éditions La Renaissance du Livre, Claude-Henri Roquet, poète et dramaturge, auteur de Jérôme Bosch et l'Étoile des Mages aux éditions MAM. Jacques Dariula, écrivain, enseigne la philosophie de l'art à la Sorbonne, auteur de Jérôme Bosch et la fable populaire aux éditions de La Lagune. Eloïsa Novaes, artiste peintre brésilienne, vit et travaille à Paris. Patrick Rogiers, écrivain, auteur de Le mal du pays aux éditions du Seuil.
Texte lu par Laurence Blasco et Jean-Paul Racoudon. Prise de son Laurent Lucas. Mixage Marie-Dominique Bougot. Une émission de Luc Ponette, réalisée par Jean-Claude Loiseau.
Cette émission est disponible en écoute et podcast sur le site de France Culture. Nous sommes sensibles à vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour Une vie, une œuvre, Giacomo Puccini.